Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Est-ce que nous pouvons, une fois de plus, je vous en prie, courber nos têtes dans la prière pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Éternel notre Dieu, c'est devant toi que nous nous tenons ce matin. Tu as été avec nous pendant toute la semaine et tu nous invites une fois de plus à tes pieds pour écouter ce que tu as à nous dire. Seigneur, nous sommes à tes pieds, nous avons soif de toi, nous avons soif de ta présence, nous avons soif de ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Seigneur, nous n'avons pas une autre destination. L'apôtre Pierre disait, à qui d'autre irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Si nous sommes ici, c'est parce que nous avons compris qu'il n'y a rien de plus important que ta parole, qu'il n'y a de salut qu'en toi, Seigneur. Ô Seigneur, remplis les cœurs assoiffés ce matin. Remplis nos cœurs par ta parole. Délivre-nous par ta parole. Restaure-nous par ta parole. Enseigne-nous par ta parole. Transforme-nous par ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. C'est un honneur pour moi d'être une fois de plus devant vous pour partager la parole de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il m'est accordée d'être celui par qui le Seigneur va passer pour nous communiquer sa pensée aujourd'hui, mais aussi au courant de la semaine. Parce que conformément au programme de la paroisse, nous commençons aujourd'hui la semaine de l'enfant, ou mieux, de la famille. Et nous serons ensemble pendant toute la semaine jusqu'au dimanche prochain. Je vous salue donc et je vous invite à saluer votre voisin, si vous ne l'avez pas encore fait, puisqu'on ne sait jamais, à côté de qui on est assis. Alléluia! Oui, je dis on ne sait jamais parce que certains ont regretté de ne pas avoir une photo. Oui. Si vous avez vos Bibles, j'aimerais vous inviter à l'ouvrir avec moi dans Genèse chapitre 1. Nous allons faire deux lectures. Genèse chapitre 1. En principe, nous devrions lire tout le chapitre et je vous invite à lire tout le chapitre à la maison. Mais je vais lire trois versets de Genèse chapitre 1. Je vais lire le verset 1, le verset 27 et le verset 31. Ensuite, nous allons lire Ésaïe, chapitre 28, le verset 16. Genèse, chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le sixième jour. Ésaïe, chapitre 28, le verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Parole du Seigneur. Le thème de ce matin, c'est le plus grand choix pour la stabilité de la famille. Le plus grand choix pour la stabilité de la famille. Le plus grand choix. Nous allons parler au courant de cette semaine de la stabilité de la famille. C'est le thème général. Ce matin, nous voulons parler du plus grand choix. Nous parlons du choix au singulier, parce qu'il y a plusieurs choix. Mais aujourd'hui, nous voulons parler du choix le plus important pour la stabilité de nos familles. Mais avant de parler de ce choix, J'aimerais nous inviter à ce que Genèse chapitre 1 que nous venons de lire dit à propos de la famille. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 1, vous avez le récit de la création, le récit de la manière dont toute chose a commencé. Tout ce que nous vivons aujourd'hui a eu un début et tout ce que nous vivons aujourd'hui a une fin. Mais Genèse chapitre 1 nous parle de l'origine de toute chose, y compris de la famille. Et la Bible dit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Nous ne croyons pas que les cieux et la terre ont commencé par un processus hasardeux. Non. Je m'excuse pour les professeurs de biologie qui sont ici. Le monde n'a pas commencé par un Big Bang. Le monde n'a pas commencé par un hasard. Dieu a créé les cieux et la terre. J'entends quelqu'un me demander où est la preuve. La Bible ne prouve pas que Dieu a créé les cieux et la terre. La Bible déclare que Dieu a créé les cieux et la terre. Dieu a créé les cieux et la terre et Dieu a créé l'homme et la femme, Adam et Ève. C'est Dieu qui a commencé cette histoire entre l'homme et la femme. C'est Dieu qui a commencé l'histoire entre l'homme et la femme dans la famille. L'histoire entre l'homme et l'homme dans la famille. L'histoire entre la femme et la femme dans la famille, ce n'est pas de Dieu. L'histoire que Dieu a commencée, c'est l'histoire de l'homme et la femme. C'est Dieu qui a créé. Dieu est l'initiateur de la famille. Et Dieu, si Dieu a créé, c'est parce que Dieu avait fait le choix de créer l'homme et la femme. Et l'homme et la femme, c'est le début de la famille. La famille commence lorsque un homme et une femme décident de se mettre ensemble. Et la Bible nous montre que cela est un projet de Dieu. C'est un projet de Dieu. La famille est le projet de Dieu. Dieu a commencé le projet de la famille le sixième jour de la création. Et Dieu, en créant ce projet, après avoir terminé la création, la Bible dit, Dieu dit que cela était très bon. Cela était très bon. Quand quelque chose est très bon, vous n'avez rien à y ajouter. C'est bon. Ce que Dieu a créé n'a pas besoin d'être amélioré. Ce que Dieu a créé n'a pas besoin d'être mise à jour, adaptée. Non, c'est bon, c'est parfait. Vous le prenez tel qu'il est fait. C'est un produit fini. Ce n'est pas un produit inachevé. Ce que Dieu a fait est bon, très bon. Il n'y a rien à y ajouter. Arrêtez d'ajouter des choses comme quoi vous êtes devenu intelligent. Dieu, ce que Dieu a fait est très bon. La famille, version originelle, Genèse chapitre 1, est très bonne. Alléluia. Pourquoi c'est bon? Pourquoi c'est très bon? Parce que ce que Dieu a créé, la famille que Dieu a créée, était à l'image du Dieu parfait. Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Quand Dieu créait, il se regardait, il a reproduit ce qu'il est lui-même. L'homme et la femme, la famille version originelle, c'est l'image de Dieu dans la création. Le reflet, lorsqu'un artiste a produit beaucoup de cantiques, ou beaucoup d'œuvres, les chantres le savent, les musiciens. Vous pouvez avoir dans votre répertoire beaucoup de chants que vous avez composés. Mais il y a toujours une œuvre qu'on appelle le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre. L'œuvre excellente. Et le chef-d'œuvre de Dieu, c'est ce qu'il a créé le sixième jour. Alléluia. Quand Dieu a créé les poissons de la mer, il a dit c'était bon. Quand il a créé les astres, il a dit c'était bon. Quand il a créé les plantes, il a dit c'était bon. Mais lorsqu'il a créé la famille, Dieu a dit c'est très bon. La famille, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Le projet de Dieu. Et ce projet a réussi. Dieu a créé la famille pour être à son image. À son image. Dieu a créé la famille pour être le reflet du Créateur dans la création. Lorsque vous regardez la création et vous voulez connaître qui a créé tout cela, regardez la famille. C'est ce que ça veut dire. Le reflet de la création. Qu'est-ce que la famille est supposée refléter? La famille est supposée refléter Dieu dans sa nature sainte, dans sa nature juste, dans sa nature fidèle, dans sa nature aimant, compassionné. Dans son caractère, la famille est censée refléter l'image de ce que Dieu est, le caractère de Dieu, les atouts de Dieu. Dans la création, Dieu a choisi la famille pour refléter ce qu'il est, son caractère, au plus haut niveau, parce que c'est le chef-d'œuvre. La famille est donc le choix de Dieu avant tout. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes dans une famille comme parents ou vous projetez de fonder une famille. Sachez que vous n'êtes pas en train de projeter quelque chose de nouveau. Vous n'êtes pas en train d'embarquer dans un processus pour inventer une chose nouvelle. Vous êtes dans un projet de quelqu'un qui l'a commencé avant vous. Et qu'il a achevé. Et maintenant, vous pouvez vous poser la question, quel est mon rôle? Quel est mon rôle dans tout ça? Quel est mon rôle de parent, d'homme, de femme, dans la famille, de parent actuel ou de futur parent? Quel est le rôle que je dois jouer dans la famille? Mon rôle en tant que parent, c'est d'abord de connaître et de reconnaître que le projet de la famille, c'est un projet de Dieu, c'est un projet divin. C'est Dieu l'architecte, c'est Dieu le créateur. Et moi, je suis pro-créateur, pas créateur, pro-créateur. Pro-créateur signifie je reproduis ce qui a été créé. C'est ça mon rôle, reproduire. Pas inventer, reproduire, reproduire. Parce que ce qui a été produit, ce qui a été conçu, est parfait. Il n'y a pas d'erreur. Dieu est l'architecte. C'est vrai, je vois dans la ville ici beaucoup qui construisent sans architecte. Bon, ce n'est pas le thème. Mais Dieu est l'architecte de la famille. Il est l'architecte et nous, nous sommes les constructeurs. Celui qui construit n'invente pas la conception. C'est lui qui construit, demande à l'architecte, donnez-moi les plans, donnez-moi les mesures, donnez-moi l'aménagement et je vais construire. Je vais traduire dans la réalité ce que vous avez imaginé. C'est ça le travail du constructeur. C'est ça le travail de celui qui doit procréer, reproduire l'image du Créateur. Pourquoi? Parce que le monde de la création ne doit pas rester sans repères. La création a besoin des repères, des modèles. Et Dieu compte sur vous et moi pour être ces reproducteurs du modèle que l'architecte a conçu. Est-ce que vous connaissez le plan de Dieu pour la famille? Je veux me marier. Est-ce que tu connais le plan de Dieu pour la famille? Je suis marié depuis 13 ans. Est-ce que tu connais le plan de Dieu pour la famille? Est-ce que ce que tu es en train de bâtir, c'est la reproduction du modèle du Créateur? Ou bien tu es en train de concevoir des nouvelles choses? Et celui qui construit, le constructeur ou l'ingénieur, celui qui construit, il ne construit pas indépendamment de l'architecte. Non, on ne construit pas indépendamment de l'architecte. Parce que lorsque vous construisez indépendamment de l'architecte, vous allez commettre de grands dégâts, des erreurs. Certaines de ces erreurs vont se manifester avant la fin du chantier. Certaines de ces erreurs vont se manifester. Avant de mettre la toiture, le chantier va commencer à s'écrouler. D'autres erreurs vont se manifester 5 ans après. Lorsque vous êtes déjà installé, c'est là que vous constatez que, oh, l'eau est en train de pénétrer dans la chambre à coucher. Certaines erreurs, vous allez les constater lorsque le séisme va tester vos fondations. C'est ce jour-là que vous allez remarquer ou constater que vous avez commis des erreurs. Comment tu bâtis ta maison, papa? Qui t'a montré ce modèle? D'où l'as-tu reçu? D'où l'as-tu reçu? Je me souviens, j'ai assisté à une certaine réunion, une des réunions, avant mon mariage. Et dans cette réunion, ceux qui étaient là me prodiguaient des conseils qui sont supposés être pour moi des outils pour bâtir mon foyer. Je ne remets pas en question l'intention de ces personnes, de ces conseillers. Ils étaient bien intentionnés. Le problème, c'est que ceux qui m'étaient parfois conseillés, ce n'était pas le modèle. Ce n'était pas le modèle. C'était un modèle. On me demandait de reproduire le modèle des ancêtres. C'est ça que je devais reproduire. Dieu merci, le Seigneur ne m'a pas laissé. Il m'a envoyé ses conseillers pour me rappeler qu'il y a un modèle divin. Il y a un modèle divin. Lorsque vous ignorez l'architecte bien-aimé dans le Seigneur, l'architecte sait pourquoi la porte de la maison doit être au nord ou au sud, ou à l'est ou à l'ouest. Il sait. Si vous ignorez le plan de l'architecte, vous serez surpris une fois que vous aménagez et vous risquez de recommencer. Et beaucoup de familles aujourd'hui connaissent des sérieux problèmes parce qu'ils ont ignoré le modèle de l'architecte. Nous aurons le temps de développer sur ce modèle au courant de la semaine. Mais ce matin, j'aimerais commencer par ce qui est le plus important. Le choix le plus important. Le choix le plus important. Ésaïe chapitre 28, que nous avons lu, nous dit que le Seigneur a mis pour fondement en Sion une pierre angulaire, la pierre angulaire, solidement posée. Et Dieu dit, celui qui la prendra pour appui, la pierre est là, mais celui qui la prendra pour appui, il n'aura point hâte de fuir, parce que vous pouvez fuir si vous l'ignorez. Et beaucoup de papas ont fui. Ils ont fui Parce qu'ils ont ignoré la pierre angulaire. Beaucoup de mamans ont fui. Ils ont quitté leur famille parce qu'elles ont ignoré la pierre angulaire. Beaucoup d'enfants ont fui le ménage parce que la pierre angulaire a été laissée de côté. Dieu dit, celui qui prendra pour appui la pierre angulaire, il n'aura pas hâte de fuir. Le choix le plus important, c'est le choix du fondement sur lequel vous bâtissez. C'est le choix le plus important. Et c'est quoi la pierre angulaire? La pierre angulaire, Actes chapitre 4, versets 11 à 12. On peut lire ça. Actes 4, 11 à 12. La Bible dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Jésus est la pierre rejetée par ceux qui bâtissent. C'est Jésus. La pierre angulaire bien-aimée dans le Seigneur. Lorsqu'au premier siècle on bâtissait, la pierre angulaire était la pierre qu'on plaçait à l'angle du bâtiment. Il y avait plusieurs pierres, mais il y avait une qui répondait à la qualification de pierre angulaire. C'était généralement une pierre taillée. C'est pourquoi dans Ésaïe dit, lorsque le Seigneur parle dans Ésaïe, il dit, c'est une pierre éprouvée, testée. Une pierre de grand prix. C'était ça la pierre angulaire. La pierre angulaire était la plus grande pierre de toutes les autres pierres. Lorsqu'on bâtissait, c'était la plus grande. Pour dire que Jésus est là, c'est ce qu'il y a de plus important. Vous ne pouvez pas bâtir sans lui. Et cette pierre angulaire, c'est sur cette pierre que reposait l'ensemble du bâtiment. Toute la structure du bâtiment reposait sur la pierre angulaire, la plus solide. Et Jésus est cette pierre. Lorsque vous commencez l'ouvrage, tant que vous n'avez pas posé la pierre angulaire, vous n'avez pas encore commencé. Tout ce que vous êtes en train de faire ne représente absolument rien. C'est la pierre angulaire. Et Jésus est cette pierre. Mais qu'est-ce que ça signifie, Jésus, la pierre angulaire? Est-ce que ça signifie confesser Jésus matin et soir, chaque dimanche? Que signifie Jésus, pierre angulaire de ma famille? Quand est-ce que je peux dire que j'ai fait le choix de bâtir sur Jésus, la pierre angulaire? Jésus est la pierre angulaire bien-aimée dans le Seigneur. Lorsque vous considérez vos décisions, parce que c'est en fonction de la pierre angulaire que toutes les autres composantes de la maison sont placées. Quand Jésus est la pierre angulaire, c'est en fonction de Jésus qu'on construit. C'est en fonction de Jésus qu'on prend les décisions. C'est en fonction de ce qui plaît au Seigneur qu'on décide. Les choix qu'on opère ont pour point de départ Jésus. Le point de départ, ce n'est pas combien je vais gagner. Le point de départ, ce n'est pas de quelle famille elle se trouve ou dans quelle famille elle se trouve ou qu'est-ce que cela va me rapporter. Le point de départ, c'est est-ce que Jésus est d'accord? Est-ce que ça plaît au Seigneur? Que dit Jésus de mes décisions? Comment Jésus est glorifié par mes décisions? En quoi Jésus est glorifié? Lorsque je veux prendre une décision en tant que parent, est-ce que nous nous posons la question, en quoi le Seigneur est glorifié. Ou bien nous y réfléchissons après. Le problème aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que beaucoup de chrétiens ont accepté Jésus. Ils l'ont invité dans leur famille. Et ils ont décidé, Jésus, tu entres dans ma famille. Voici ta chambre. Et ton lit est là. Je viendrai te réveiller lorsque j'aurai besoin de toi. En attendant, on continue les affaires comme d'habitude. Les disciples ont commis cette erreur dans Matthieu chapitre 8, à partir du verset 24, vous pouvez lire à la maison. Jésus est monté dans la barque avec eux. Jésus était dans la barque et la tempête est arrivée. La tempête est arrivée alors que Jésus était dans la barque. Comment la tempête peut arriver alors que Jésus est dans la barque? Il y a des familles qui se posent la question, comment je peux manquer du boulot alors que Jésus est dans la barque? Comment mon mari peut se comporter comme ça alors que Jésus est dans notre maison? Comment je peux rester impayé alors que Jésus est dans ma famille? Comment mon épouse ou mes enfants peuvent se comporter de la sorte alors que Jésus est là? Oui, Jésus est là. Et vous lui avez donné la place. Celui que vous avez accueilli, bien-aimé dans le Seigneur, ce Jésus que vous avez accueilli, il est la pierre angulaire. Alléluia. Si vous mettez la pierre angulaire au-dessus des pierres accessoires, la pierre angulaire va détruire les pierres accessoires. Celui que vous avez accueilli, c'est le roi. Lorsque vous accueillez un roi, ce n'est pas vous qui lui dictez la place. Lorsque vous accueillez un roi, c'est lui qui vous dicte la place. Il remet de l'ordre dans votre famille. L'ordre que vous avez, les principes avec lesquels vous dirigez votre ménage, qui vous les a donnés? Est-ce que ce sont vos collègues? C'est votre patron? C'est votre beau-père? Ou c'est votre belle-mère? Est-ce que c'est votre père ou votre mère? Est-ce que c'est votre idole que vous regardez à la télé? Qui vous a donné ces principes avec lesquels vous voulez vous marier? Qui vous a donné les principes avec lesquels vous éduquez vos enfants? Qui? Ah, mon enfant doit avoir 1, 2, 3, 4 à tel âge. Qui vous a donné ces principes? Qui? Est-ce que c'est Jésus? Ou bien c'est la mode? Ou bien c'est la tendance? Lorsque Jésus est la pierre angulaire bien-aimée dans le Seigneur, c'est lui qui établit l'ordre à suivre dans la famille. Le chef, ce n'est pas le papa, c'est Jésus. Le chef, ce n'est pas celui qui gagne plus, c'est Jésus. Le chef, ce n'est pas celui qui a le plus gros diplôme, c'est Jésus. Le chef, ce n'est pas celui qui a payé tes études, c'est Jésus. Quand Jésus est la pierre angulaire, c'est lui l'architecte. C'est lui qui préside aux décisions. C'est lui qui te dira si cette opportunité d'affaires est pour toi. C'est lui qui te dira si tu dois déménager vers cette maison. C'est Jésus qui te le dira. Si tu oses y aller sans lui, tu connaîtras la tempête. Alléluia. Quelle place as-tu donné Jésus dans ta famille? Est-ce que tu l'as même invité dans ta famille? Est-ce que nous pouvons nous mettre debout dans la prière? Est-ce que nous pouvons chanter ce cantique courtement? Le cantique que nous avons chanté en prélude. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu fasses de ce cantique ta prière ce matin. Nous avons l'habitude de venir dans la maison de Dieu avec des choses que nous voulons dire à Dieu. Nous voulons que Dieu nous écoute. Oui, il est là pour nous. Mais ce matin, j'aimerais te dire, les choses par lesquelles tu seras sauvé, les choses par lesquelles ta famille sera restaurée. Ce sont les choses que Dieu a à te dire. Ce ne sont pas des choses que tu veux lui dire. Ce sont des choses que Dieu a à te dire. Est-ce que tu peux t'approprier ces paroles et dire, Seigneur, je viens devant toi. Détruis ce qui ne va pas. Détruis ce qui ne va pas. Et conduis chacun de mes pas. Alléluia. Premier prophète de ta vie.
Transforme-moi.
Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin.
Viens conduire chacun.
Nous sommes devant toi ce matin.
Oui, Seigneur.
Ce n'est pas devant un homme que nous nous sommes approchés. Nous nous sommes approchés devant le trône de la grâce. Le Créateur des cieux et de la terre. L'architecte de nos vies et de nos familles. Celui qui connaît le secret de la famille, de la stabilité de la famille, de la prospérité de la famille, du succès de la famille. Le monde propose une version de son succès, de sa stabilité. Mais nous sommes venus auprès de toi. Nous avons refusé d'aller auprès du monde, de nous abreuver dans ces torrents amers. Nous nous sommes approchés du torrent de vie. Seigneur, 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 brise et transforme-nous. Et conduis chacun de nos pas, afin que le modèle que tu as tracé à l'origine de la création, lorsque tu as dit que ce que tu as créé est très bon, Seigneur, nous voulons voir ce modèle. Nous voulons pouvoir témoigner dans nos familles que ce que Dieu a fait de ma famille, de moi, est très bon, très bon. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Bénis ta parole dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.